Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Et nous allons lire du verset 11. Jusqu'au verset 15. Tite, chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 15. Tite 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Alors, je ne veux pas faire une exposition de ce passage ce matin, mais je vais utiliser, puisqu'on va participer à la table du Seigneur tout à l'heure, le verset 14 nous rappelle le sacrifice de Christ, où il dit « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité » et de se faire un peuple qui lui appartienne. Et c'est ce peuple, une caractéristique de ce peuple que je voudrais souligner ce matin. Il dit « peuple purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres ». Et je voudrais parler ce matin du zèle que l'on doit avoir pour Dieu. Et le titre du message, c'est le zèle pour Dieu. Parce que la Bible dit ici que Dieu nous a rachetés pour que nous lui appartenions et pour que nous soyons purifiés et que nous soyons aussi zélés pour de bonnes œuvres. Alors, qu'est-ce que le zèle, vous connaissez ce que c'est? C'est l'empressement, c'est la ferveur, la chaleur, le cœur que l'on met à quelque chose, n'est-ce pas? Le zèle peut avoir parfois une connotation négative. Hein. On dit parfois que les gens font des excès de zèle. On dit certaines personnes, hein. Parfois on dit certains fonctionnaires dans des administrations font des excès de zèle. Hein. Ils vont un peu plus loin que ce qui leur est demandé. Hein. J'ai même vu qu'il y a un type de grève qui s'appelle la grève du zèle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la grève du zèle. Alors, il s'agit d'être zélé à l'extrême. Alors, par exemple, j'ai lu que, par exemple, les douaniers, c'est passé au Canada, je crois, ils vont fouiller toutes les voitures qui passent, mais minutieusement. Ils vont mettre un temps fou pour fouiller dans chaque véhicule, à tel point que ça met un embouteillage monumentale. C'est leur manière de ralentir, de manifester, parce que la grève, ça sert en général, c'est ce que ça fait, hein, ça met de l'embouteillage, du ralentissement, et donc le fait de faire son travail, mais jusqu'à l'extrême, d'être zélé à l'extrême, ça, c'est une forme de manifestation. Donc c'est un zèle à l'extrême, on pourrait dire. Mais le zèle aussi a pas seulement une connotation négative, il a aussi une connotation, bien sûr, positive. Et l'Écriture parle à plusieurs endroits du zèle et du zèle que doit avoir le croyant. Et je pense qu'il est important de parler de cela parce que c'est quelque chose que nous pouvons perdre. Dans les lettres qui sont écrites à l'Église, aux Églises, dans l'Apocalypse, il y a une Église à laquelle Dieu dit « Aie du zèle et repens-toi ». C'est à l'église de Laodicée, on le verra tout à l'heure. Donc, Nous voulons considérer cela, puisque la Bible nous encourage à cela. Dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Donc nous avons des exhortations au zèle. Il est important pour nous, dans cette période que nous vivons, où nous avons peut-être beaucoup de sollicitations extérieures, où nous pouvons nous relâcher dans notre vie chrétienne, de méditer un petit peu sur ce zèle que l'on doit avoir. La première chose que je voudrais souligner, à partir de ce verset que nous avons lu, donc nous en verrons d'autres, c'est que le zèle pour Dieu est un fruit de l'œuvre de la grâce de Dieu. Le zèle pour Dieu est un fruit de l'œuvre de la grâce de Dieu. Nous avons lu « Il s'est donné lui-même pour nous » et au début, verset 11, il est question de la grâce de Dieu qui nous enseigne. Cette grâce est manifestée par le fait que Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Autrement dit, le zèle pour Dieu, c'est un fruit de la grâce de Dieu. Et Paul dit ici que l'œuvre expiatoire de Christ à la croix du calvaire a pour but de purifier le peuple de Dieu, mais de le rendre zélé pour Dieu, de lui donner du zèle pour de bonnes œuvres. Dieu veut que son peuple racheté soit reconnu pour son zèle. C'est ça qui doit être une marque, une caractéristique du peuple de Dieu. Nous lisons dans Éphésiens que nous avons été rachetés, que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Il dit, je vous lis Éphésiens 2:10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pourquoi ? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Mais non seulement il a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer, il veut que l'on soit zélé dans la pratique de ces bonnes œuvres. Et Paul dit que c'est même pour cela que Christ s'est donné lui-même pour nous. Donc il y a un lien étroit entre le sacrifice de Christ et le zèle du croyant. Qui dit appartenir à Christ doit manifester son appartenance par le zèle, parce que les deux choses sont liées. De même que celui qui dit qu'il est un enfant de Dieu, il doit rechercher la pureté dans sa vie, parce qu'il a été, ici l'apôtre Paul le dit, sauvé par Dieu, racheté de toute iniquité pour être un peuple purifié. Eh bien, celui qui dit appartenir à Christ aussi doit savoir qu'il a été racheté par Dieu pour être un peuple zélé, pour être un chrétien zélé. Et donc le zèle est étroitement lié au sacrifice de Christ. La mort du Christ implique le zèle du croyant. La mort du Christ implique le zèle du croyant. Et donc ça, c'est une chose que nous devons considérer ce matin, c'est que le zèle pour Dieu est vraiment le fruit de l'œuvre de la grâce de Dieu. La vieille nature que nous avons nous a rendus zélés pour le mal. L'apôtre Paul dit, quand on n'est pas enfant de Dieu, on est zélé pour toutes sortes de choses. Eh bien, la rédemption en Jésus-Christ a pour but de nous rendre zélés pour le bien, pour de bonnes œuvres, zélés pour Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 19, il dit, « De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclave à la justice pour arriver à la sainteté. » Donc il y a, il dit, le même empressement que vous avez eu à vous livrer au mal, il faut maintenant utiliser cet empressement pour vous livrer au bien. Le zèle que vous avez eu dans une direction, il faut maintenant l'avoir dans l'autre direction. Et il y a un auteur puritain qui disait ceci, il dit que la vraie grâce est un feu qui réchauffe et qui enflamme nos affections pour Christ. La vraie grâce, c'est un feu qui réchauffe et qui enflamme nos affections pour Christ. Donc celui qui dit être au bénéfice de la grâce de Dieu, doit montrer ce zèle, cette ardeur, cette ferveur à servir Christ. Parce que c'est pour cela que Christ est mort. Il est mort pour que son peuple soit un peuple qui montre son zèle pour lui. Ça, c'est la première chose. Le zèle pour Dieu est un fruit de l'œuvre de la grâce de Dieu. Mais maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un vrai zèle pour Dieu? Donc, c'est mon second point. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai zèle pour Dieu? Il ne suffit pas d'être zélé. Encore faut-il que ce zèle soit tel que le Seigneur le veut. Et puis, encore faut-il ne pas se tromper sur ce que c'est qu'être zélé. Parfois, on va à des endroits, on voit des gens qui sont chauds, qui bougent dans tous les sens, et on dit, ouais, ça c'est, il y avait du zèle là. Il y avait du zèle dans l'adoration. Quand ça bouge, quand il y a beaucoup d'effervescence, on appelle cela parfois du zèle. Mais la Bible souligne à plusieurs endroits que le zèle n'est pas toujours comme ce que Dieu demande. Il n'est pas toujours bien orienté vers le bon objet, mais aussi parfois il ne se caractérise pas comme il doit être caractérisé, parce que le péché détériore tout, et le zèle bien sûr n'échappe pas à cette détérioration, n'échappe pas à l'effet du péché. Alors, les caractéristiques d'un vrai zèle. Premièrement, c'est un, on l'a dit dans la définition, et le zèle pour Dieu est un zèle brûlant, est une ardeur, une ferveur pour Dieu. Le zèle n'est pas la froideur, mais la ferveur brûlante qui anime le croyant. Par exemple, Jésus parle de Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, et puis il dit dans Jean chapitre 5, verset 35, il dit « Jean était une lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » Et si vous vous souvenez de Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui avait le verbe franc, qui n'osait pas montrer le mal là où il était, qui n'osait pas reprendre même Hérode dans sa vie dissolue, et qui appelait les gens à la repentance avec la plus grande fermeté. Et Jésus dit que c'était une lampe qui brûle et qui luit. Et c'est ça un peu le zèle. C'est le fait de brûler à l'intérieur et de luire à l'extérieur. C'est comme ça que fonctionne une lampe. Ça doit brûler à l'intérieur pour que la lumière puisse être répandue à l'extérieur. Et Jésus dit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Donc, il n'y a pas de véritable, on pourrait dire, éclat pour Dieu sans un feu qui brûle à l'intérieur. Et le ministère extérieur de Jean-Baptiste était lié à ce feu de l'Esprit. On se rappelle que la Bible dit que dès le sein de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Et donc, il y avait cette ferveur que donne le Saint-Esprit, cette ardeur que donne le Saint-Esprit qui brûlait en lui. Je vous ai cité tout à l'heure Romains chapitre 12, verset 11, qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse, et soyez fervents d'esprit. » D'accord ? La traduction originale dit quant à la paresse, non, mais soyez fervent d'esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être fervent d'esprit? Le mot fervent, dans le dictionnaire biblique, dit que ça veut dire bouillir de chaleur, être chaud bouillant. On dit, ouais, quand on voit quelqu'un, on dit, ouais, celui-là, il est chaud bouillant, il montre une grande ferveur, ça peut arriver dans le sport ou dans d'autres domaines. Eh bien, l'apôtre Paul dit, le chrétien ne doit pas être paresseux, mais il doit être chaud bouillant pour servir Dieu. Il doit avoir un esprit éveillé, un esprit vif, un esprit brûlant qui le conduit à servir le Seigneur avec une grande ardeur. C'est cela que l'on entend l'une des caractéristiques du zèle du croyant. Le zèle pour Dieu, c'est vraiment cette faveur, cette passion, cet enthousiasme, cet empressement, cette promptitude à servir Dieu, à être soucieux de la gloire de Dieu et à chercher vraiment ce qui lui plaît. Nous avons chanté tout à l'heure ce cantique où dans le psaume 73, là où il est dit « Même si ma chair se consume », Et dans quand nous l'avons chanté, il a dit que la parole de Dieu en nous consume, nous fait brûler. C'est quand cette parole brûle au dedans qu'elle peut rayonner à l'extérieur. C'est quand on est fervent d'esprit qu'on peut être vraiment utile et lumineux, si j'ose dire, au service de Dieu. Donc le zèle, c'est cette ardeur brûlante que met l'esprit dans le croyant. Ça, c'est une première caractéristique. Mais une seconde caractéristique, le zèle pour Dieu doit avoir toujours de pure motivation. On peut avoir du zèle avec une mauvaise motivation. Le zèle doit avoir de pure motivation. Au Galates, l'apôtre Paul écrit ceci, Galates chapitre 4, il dit, il parle des faux docteurs qui montrent un certain zèle pour les Galates, une certaine affection pour eux, un certain soin pour eux. Et il leur dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Donc on peut avoir un zèle qui n'est pas un zèle pur. On peut avoir un empressement, même à l'égard des autres, mais avec derrière une mauvaise motivation. Et Paul dit dans Galates 4, 17, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Ils veulent vous détacher de nous, donc des apôtres, afin que vous soyez zélés pour eux. Il dit ici, donc, montre que on peut être animé d'un zèle qui n'est pas pur. Donc, Paul appelle à la perspicacité des Galates. Il appelle à leur discernement. Il leur dit, ne vous laissez pas prendre au piège du zèle. C'est pas parce que quelqu'un montre vraiment de la sollicitation constamment pour vous. Vous dites, il est zélé comme Dieu veut qu'il soit zélé. Il faut s'interroger parfois sur la motivation qu'il y a derrière. Il dit que les faux docteurs montrent de la sollicitude, mais attention, derrière, tout ce qu'ils veulent, c'est vous détacher des apôtres qui vous enseignent la vérité pour vous attacher à eux-mêmes. Et ça peut arriver que des prédicateurs fassent cela, n'est-ce pas? Qu'ils montrent un zèle pour les gens, les visites, etc. Mais peut-être que derrière, ce qu'ils veulent, c'est que les gens soient attirés à eux. D'accord? Avoir des gens qui les aiment, qui les entourent, qui soient sous leur tutelle. Ils montrent de la ferveur à votre égard, dit Paul, mais ils ne sont pas animés d'un vrai zèle pour Dieu. Leur motivation, ce n'est pas la gloire de Dieu, leur motivation, c'est leur propre gloire, leur propre personne. D'accord? Et ils cherchent des personnes qui peuvent adhérer à eux-mêmes. Donc le vrai zèle est orienté toujours pour le bien. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates, à la suite, regardez Galates chapitre 4, si vous l'avez, Galates chapitre 4, il dit, ici au verset, nous avons lu le verset 17, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, ils veulent vous détacher de nous afin de vous que vous soyez zélés pour eux. » Et verset 18, il dit, « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps, non seulement quand je suis présent parmi vous. » Donc il dit, oui, c'est bien d'avoir du zèle, mais attention, il faut s'assurer que derrière le zèle, c'est qu'il est animé par une bonne motivation, que c'est un zèle pur. La Bible parle encore ailleurs d'un zèle amer aussi. On peut être animé d'un zèle qui est motivé par de l'amertume, ou c'est un zèle amer dans le sens où voilà, il va avoir de mauvais résultats. Et on trouve ça dans Jacques. Jacques, chapitre 3, verset 14, je vous lis, il dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute. » D'accord? Parfois, le zèle peut être manifesté par un esprit qui cherche la discorde et la dispute. On est toujours prêt à dire ceci, toujours prêt à faire cela, hein, toujours empressé, le premier à intervenir, mais derrière, ce qu'on cherche, c'est la dispute. Il dit, si vous êtes animé d'un cœur, si dans votre cœur il y a un zèle amer, un esprit de dispute, Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc on peut aussi être animé par un zèle qui est un zèle pour les débats d'opinion, les choses comme ça. Voilà, on est toujours en train dans des choses où on va critiquer, etc., etc. Et on est animé à ce moment-là d'un zèle amer. Amer, ça veut dire qui perce, qui est rude, qui est piquant. C'est le sens du mot ici. Donc, c'est le zèle dont étaient animés, par exemple, les prédicateurs à Rome. Vous vous rappelez, lorsque l'apôtre Paul écrit à Rome, aux Philippiens, il parle de ceux qui sont animés d'un esprit de dispute et qui prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Alors, je vous lis Philippiens 1, 17, il dit « Ceux-là sont animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. » Donc, ils avaient un zèle pour la prédication. Mais ce zèle était dirigé pour faire du tort à l'apôtre Paul. Prêchait l'évangile avec un zèle amer, avec un esprit de dispute. C'est tout à fait possible, selon ce que la parole nous dit ici. Et puis, on peut avoir aussi un zèle qui est motivé par l'orgueil aussi. Donc, ce n'est pas une motivation pure que d'être orgueilleux dans son zèle. On est enflé par son propre zèle. On veut que les autres voient notre zèle. On veut que les autres l'admirent. Et ça, c'est le cas de Jéhu, par exemple, si vous vous souvenez du roi Jéhu dans le livre des rois, qui était roi d'Israël et qui avait accompli le jugement que Dieu avait prophétisé contre la maison d'Akab. Et donc, il a détruit des gens de la maison d'Akab. Et à un moment donné, la Bible dit qu'il rencontre Jonadab, je crois, qui est le fils de Rekab. Et il lui dit ceci, il lui dit, « Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Et il l'emmena ainsi dans son char. « Viens et je vais te montrer mon zèle. Viens avec moi, tu vas voir combien de passages bibliques je lis, combien je médite. » Comment le Seigneur me parle à travers la parole. Viens, tu vas voir combien de versets je mémorise, combien je témoigne pour Dieu. Parfois, on peut être comme ceci. Combien je sers au temple, combien je suis assidu, combien je suis ponctuel. Vois mon zèle pour Dieu. Viens un peu. Et on le sait que c'était de l'orgueil parce que plus tard, la Bible dit quelque chose de négatif concernant Jéhu. Donc on peut être animé d'un zèle, il l'a fait. Et Dieu reconnaît même ce zèle, parce que Dieu dit, voilà, il a fait le travail, il a accompli ce que j'avais demandé. Il l'a fait avec zèle. Mais en même temps, il était orgueilleux de son propre zèle, de sa propre ardeur à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ainsi que le péché agit souvent en nous. Nous sommes tellement tordu que nous pouvons faire quelque chose pour Dieu avec le zèle et en même temps avec une mauvaise motivation. Et c'est pour cela qu'il faut être extrêmement vigilant. Le zèle pour Dieu doit avoir de pures motivations. Ça, c'est une caractéristique du zèle pour Dieu. Mais une autre caractéristique du zèle, c'est qu'il doit être, le zèle pour Dieu doit être conforme à la bonne compréhension de la parole de Dieu. Le zèle pour Dieu doit être conforme à la bonne compréhension de la parole de Dieu. Le zèle peut être aveugle et guidé par toute autre chose que par une bonne compréhension de la parole de Dieu. L'apôtre Paul parle de son propre zèle avant de connaître Christ. Il dit ceci dans Galates chapitre 1, verset 14. Il dit « J'étais le plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. » J'étais animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. En Actes chapitre 22, devant la foule à Jérusalem, il dit ceci, Actes 22 verset 3, il dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de mes pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Il parle à des Juifs qui sont remplis de zèle pour Dieu et dit lui-même, il était plein de zèle pour Dieu. Et notez que Paul parle du zèle pour Dieu qu'il animait. Il ne parle pas du zèle pour n'importe quoi, c'était vraiment du zèle qu'il avait pour Dieu. Et dans l'Épître aux Romains, il parle même des Juifs qui sont zélés aussi pour Dieu. Et il dit ceci, il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, sans l'intelligence de la parole. Donc on peut avoir du zèle pour Dieu, et en même temps que ce zèle ne soit pas guidé, orienté par une bonne compréhension de la parole de Dieu. On a du zèle pour servir Dieu, on veut le faire, mais on le fait pas de la bonne manière parce que il n'est pas guidé par une bonne compréhension de la parole de Dieu. Et dans ce passage que Paul, quand il parle dans Romains là, il dit même le vœu de mon cœur pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc ils ont du zèle pour Dieu et ils ne sont pas sauvés. On peut même avoir du zèle pour Dieu sans être sauvé. Ce que Paul dit ici. Alors il ne dit pas, il vaut mieux être sauvé et ne pas avoir du zèle. C'est pas ce qu'il dit, hein. D'accord? Il dit, il faut du zèle. Parce qu'il dit que Christ est mort pour que son peuple soit un peuple zélé. Mais attention, il dit, attention, faut pas se tromper sur les caractéristiques d'un vrai zèle. On peut même avoir du zèle pour Dieu, et c'était le cas ici, et ne pas être sauvé. Comme lui, il en avait aussi. Et il, qu'est-ce qu'il faisait avec son zèle? Il persécutait l'église de Christ. Il était attaché à la loi de Dieu, et il le dit lui-même, quand il parle aux Philippiens, il dit, quant au zèle, j'étais quoi? Persécuteur de l'église de Christ. Donc on peut avoir du zèle et ne pas être sauvé. On peut avoir du zèle et persécuter l'église de Christ. Pourquoi? Parce que ce zèle ne repose pas sur une bonne compréhension de la parole de Dieu. C'est Jésus qui disait à ses disciples, il arrivera même où un temps où, comment il avait dit cela, quiconque vous maltraitera pensera rendre un culte à Dieu. Je n'ai pas peut-être bien dit dans le bon sens, mais un petit peu comme ça. Il dit voilà, ceux qui vont vous outrager, il arrivera même un temps où ils vont, en le faisant, penser même qu'ils rendent un culte à Dieu. Et c'est ce que faisait l'apôtre Paul. Il molestait les chrétiens. Il a dit qu'il a combattu, il appelait ça une secte, qu'il a combattu avec un zèle ardent. Un zèle fort. Il y avait dans ça une grande sincérité dans laquelle il pensait vraiment servir Dieu. Servir Dieu. Mais dans Galates, il dit, lorsque il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de se révéler à moi, alors il dit, alors à ce moment-là, il a tout abandonné. Et il a servi, toujours avec un zèle ardent, mais il a servi Dieu avec une bonne connaissance de la parole de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Donc, le zèle pour Dieu nécessite une bonne compréhension aussi de la parole de Dieu. Et le zèle pour Dieu doit être maintenu toujours constant. Le zèle n'est pas une affaire de circonstances, hein. Il doit toujours exister. Il doit être maintenu constant. Il doit être continuel. Je reprends Galates chapitre 4 verset 18. L'apôtre Paul dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Donc d'abord, un zèle bien orienté, c'est une chose, mais un zèle continuel ici. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Bah, ça arrive parfois dans les églises où les certains membres parfois sont présents quand le pasteur est là. Ils montrent un zèle à être présent, à être assidu, et puis quand ils savent que le pasteur va s'absenter pour une conférence, n'importe quoi, ils en profitent aussi pour s'absenter. Ça arrive parfois. On a un zèle de circonstance. Et l'apôtre Paul dit, non, il dit, attention, il est bon d'avoir du zèle en tout temps, et non seulement quand je suis présent parmi vous. Ce n'est pas là qu'il faut montrer que vous servez, etc. Il faut montrer que vous servez même quand je suis absent. Donc le zèle n'est pas une affaire de circonstance, il doit être continuel. Parfois, le zèle, il n'est pas continuel parce que quand on vieillit, eh bien, on se refroidit. Et on parle toujours du zèle du nouveau-né. Ils ont l'air toujours, ils voient le Seigneur partout, ils voient une pancarte, il y a le Seigneur dessus, partout. Ils viennent de se convertir, Jésus-Christ, il est partout, hein, il parle à tout le monde, etc. Et puis quand on est un peu vieux, on dit, t'inquiète, encore 2-3 ans, ça va se calmer un peu. Hein? On devrait pas dire ça. On devrait plutôt être piqué et demander au Seigneur pourquoi est-ce que notre zèle, il a diminué. Mais parfois le zèle diminue avec le temps. La tiédeur envahit les vieux chrétiens. Et il arrive que le jeune converti plein de zèle, parfois nous dérange. Parce que, il nous montre que peut-être on s'est un petit peu endormi. Et il y a l'évêque anglican Ryle que j'aime bien citer qui dit ceci. Il dit, certaines personnes disent que les jeunes ne sont pas sages. Et il dit, il est peut-être vrai que les jeunes croyants sages sont très rares. Mais il n'en est pas moins vrai que les vieux croyants zélés sont tout aussi très rares. Donc c'est vrai que les peuvent manquer de sagesse les jeunes quand ils avec le zèle. Mais ce qu'on devrait faire, c'est que est-ce qu'avec notre ancienneté, nous n'avons pas perdu du zèle que eux ils montrent lorsqu'ils viennent de connaître Christ. Quel triste constat. Parfois le zèle il est aussi sélectif. Il n'est pas continuel parce qu'il est sélectif. On montre du zèle dans certains domaines et pas dans tout. On montre du zèle là où ça nous intéresse. Là, on veut être vu, on montre du zèle. Là, on veut servir. Là, on est zélé pour tel type de service. Mais quand on nous demande un autre, on montre qu'on n'est pas zélé pour ces choses-là. Et c'était le cas de Jéhu que j'ai cité tout à l'heure. La Bible dit en 2 Rois 10:31, rappelez-vous, Jéhu qui avait dit, viens et vois mon zèle, le zèle que j'ai pour l'Éternel. Dieu salue ce zèle, Dieu fait même des promesses à propos de ce zèle. Et puis au verset 31 du chapitre 10 de 2 Rois, il est dit « Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. » Il avait eu du zèle pour accomplir le jugement de Dieu quand il fallait frapper la maison d'Akab. Mais lorsque la parole de Dieu dit, mais ça c'est un péché là, il faut éliminer ça. Ça c'est un péché, peut-être dans ta propre vie que tu fais. Alors là, il avait plus de zèle pour cela. Il a eu un zèle sélectif. Et parfois, on peut être zélé pour certaines choses. Zélé pour le péché que l'on voit chez les autres. Et on est zélé pour lutter contre le péché des autres. Et puis pas zélé pour notre propre péché, dans notre propre cœur que Dieu nous montre. On peut être zélé pour une partie de la parole de Dieu et puis pas pour une autre partie de la parole de Dieu. Et puis aussi le zèle, donc dans l'une des caractéristiques, le zèle pour Dieu, il doit toujours se transformer en action. Il ne peut pas être qu'un zèle dans la tête, qu'un zèle d'intention, il doit être aussi un zèle d'action, si j'ose dire. Il arrive qu'on soit zélé, ça arrive souvent en début d'année, pour formuler des vœux. On est prêt. On va lire la Bible. On va venir aux études bibliques. On va faire ceci ou cela. On va méditer, on va mémoriser la parole de Dieu. Et puis, cet empressement qu'on a eu à prendre des engagements, on ne l'a pas à les mettre en œuvre ici. Et l'apôtre Paul souligne cette attitude chez les Corinthiens, vous vous rappelez, qui avaient le désir de participer à une collecte en faveur des pauvres de Jérusalem. Ils ont dit, oui, on va participer. Oui, on va faire cela. On veut le faire. Et l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 10, il dit, « C'est un avis que je donne là-dessus et cela vous convient à vous qui, non seulement, écoutez bien ce qu'il dit, avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. » Ils ont eu le désir de le faire, ils ont commencé à mettre de côté, et puis visiblement, le zèle s'est estompé. Et l'apôtre Paul dit ceci, « Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement, au zèle, c'est le mot qui est là, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Okay? Que vos actions répondent au zèle que vous avez mis à vouloir faire quelque chose. Et parfois, on a du zèle dans le vouloir et on n'a pas du zèle dans le faire. On est dans notre tête, on dit oui, et quelquefois, il arrive même que, parce que nous avons du zèle dans le vouloir, nous pensons être zélés. Parce que nous avons voulu faire ceci. On est plein de bonnes intentions. Je vais donner la dîme. Ouais, Seigneur, voilà, je vais faire plein de choses. Et ça nous satisfait presque, on est presque certain qu'on est zélé parce qu'on a eu cette intention. La Bible dit non, l'intention doit se transformer toujours en action. Et le vrai zèle n'est pas que dans la tête, il n'est pas que dans le vouloir, il est aussi dans ce que l'on fait, dans l'accomplissement ici. Donc je résume encore ce point. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai zèle? Il doit être un zèle brûlant pour Dieu, un zèle avec des motivations pures, un zèle, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, c'est ça, un zèle avec des motivations pures pour Dieu, un zèle qui est conforme à la connaissance, bonne compréhension de la parole de Dieu, un zèle qui doit être maintenu toujours constant et un zèle qui doit se transformer en action. Et maintenant, je voudrais juste souligner un petit peu l'importance d'être zélé pour Dieu. Parce qu'on dit que nous sommes un peuple de Dieu racheté, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. On a vu rapidement quelques caractéristiques d'un vrai zèle pour Dieu. Mais pourquoi? Quelle est l'importance d'être zélé pour Dieu? Après tout, il y a peut-être des chrétiens qui sont zélés, moi je le suis moins, je suis au Seigneur, je suis sauvé. Est-ce un problème? Premièrement, c'est important parce que Dieu prend plaisir dans son serviteur zélé. Et nous avons dit que la fin de la vie de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui, de le glorifier, n'est-ce pas? Et Dieu prend plaisir dans son serviteur zélé. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament, vous connaissez peut-être Phiné, qui était le fils d'Éléazar, donc descendant d'Aaron, et qui a, à un moment donné de sa vie, accompli un acte que nous jugerions peut-être d'extrémiste, si nous le considérons aujourd'hui, de nos jours. Bien, la Bible dit que le peuple de Dieu s'était allié, avait été tombé dans l'idolâtrie suite au conseil que Balaam avait donné, vous rappelez-vous, pour corrompre le peuple de Dieu. Et ils étaient dans une idolâtrie telle qu'ils sont arrivés à avoir des relations avec des Madianites, des relations sexuelles avec des Madianites. Et pendant que Dieu montre sa colère contre ces choses, eh bien la Bible dit qu'à un moment donné, il y a un enfant du peuple de Dieu qui passe devant Moïse et devant le peuple qui était en train de pleurer avec une Madianite et qui va dans sa tente. Sous les yeux de Moïse. Et la Bible dit que Phiné, il a pris sa lance, il est entré et il les a tous les deux percés avec sa lance. Un acte fort, courageux et violent et peut-être même, dirions-nous, extrémiste. Jusqu'au point. Mais bon, il faut rentrer dans le contexte et regarder quelle était la loi. Il y a plein de choses que vous regardez. On va pas rentrer là-dedans. Ce que je voudrais souligner là-dessus, c'est que Dieu dit ceci. Regardez en Nombre 25. Dieu dit ceci après l'acte de Phiné. C'est ce que Dieu dit qui nous intéresse, donc nous regardons en Nombre, chapitre 25. Nombre, chapitre 25. Regardez verset 8, déjà il dit, l'acte de Phinée, 7. À cette vue, Nombre 25, 7, à cette vue, Phinée, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, il prit une lance dans sa main, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Dieu était en train de frapper le peuple à cause de l'idolâtrie qui s'était installée dans le peuple. Verset 10, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, Phinée, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il était animé de mon, quoi, de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumer les enfants d'Israël. C'est pourquoi, verset 12, tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui une alliance d'un sacerdoce perpétuel. Pour quelle raison, chers frères et sœurs? Parce qu'il a été zélé pour son Dieu. C'est Dieu qui parle, qui dit ça. Il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Il a montré son zèle en arrêtant la plaie qui était en train de frapper le peuple de Dieu. Le seul moyen de le faire, c'était en éliminant ces deux personnes. Et Dieu ne dit pas, qu'est-ce que tu as fait? Tu es un meurtrier. Dieu dit, il a montré son zèle pour Dieu. Il n'est pas que nous devons faire ça chaque fois que nous voyons des gens en train de pécher. C'est pas ce que ça dit, Il dit qu'il a montré son zèle. C'est là qu'il faut considérer les choses ici. Et Dieu, donc pourquoi est-ce que c'est important d'être zélé? Parce que Dieu est glorifié par ses enfants qui sont zélés. Il prend plaisir, il le dit, il bénit même, on le voit ici, ceux qui sont zélés. Mais quand ils ne le sont pas, il montre son dégoût. Apocalypse chapitre 3 verset 15. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. D'un côté, il dit, il a été animé de mon zèle, je le bénirai. De l'autre côté, il dit, il n'a pas de zèle, il est tiède, ça me donne la nausée. Je vais le vomir. Il faut que nous considérions la question du zèle sous cet aspect-là. Dieu prend plaisir dans son serviteur zélé. Deuxième raison pour laquelle il est important d'être zélé pour Dieu, c'est que le zèle a une influence bénéfique sur l'Église et sur les autres. Paul utilise le zèle des uns comme stimulant pour l'amour des autres. Dans la lettre aux Corinthiens que nous avons regardée tout à l'heure, quand il parle de la collecte, il parle des Macédoniens qui ont donné au-delà même de leurs moyens. Et il veut encourager les Corinthiens qui avaient commencé, qui avaient eu l'intention, qui avaient eu le zèle pour dire oui, nous voulons participer, qui avaient commencé, dont le zèle s'était estompé. Il veut les encourager à continuer à leur participation, à montrer du zèle. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'exemple des Macédoniens et il dit ceci avec 2 Corinthiens 8, verset 8, je vous lis, il dit, « Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. » Autrement dit, il dit que le zèle des uns est un puissant stimulant pour les autres, quand ils savent bien le considérer. Quand on voit un chrétien zélé, on ne doit pas dire « Ouais, bon, il est extrémiste, c'est un fanatique. » On doit dire « Mais où est-ce que j'en suis, moi ?» Et même quand on voit Je dis ça parce que il y a des footballeurs ici, mais même quand on voit, parce que moi j'ai un terrain de foot en face de chez moi, à 8h du matin, des footballeurs sur le terrain de foot, en tenue, en train de suer, ils sont zélés pour aller faire du sport. Et que moi je me dis, bon, allez, je vais arriver en retard au culte, je vais partir, hein, je vais arriver à, d'accord, avec sans ardeur. Peut-être j'arrive en retard parce que voilà, après tout, c'est pas très important. La première partie, ce qui est important, c'est la prédication. Enfin bref, je sais pas tout ce qu'on peut dire. Leur zèle doit me motiver. Leur zèle pour leur sport doit me motiver au zèle pour Christ. S'ils sont zélés pour cela, à combien plus forte raison, moi qui ai été racheté par Christ pour être un peuple purifié et zélé, à quel point je dois montrer mon zèle et faire tous mes efforts pour être avant l'heure. Ça fait partie du zèle que je dois montrer. Parce que le zèle des uns a une influence sur les autres. Et regardez de ce que Paul dit le résultat. On était dans 2 Corinthiens 8, verset 8, quand il a dit « Je veux éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour ». 2 Corinthiens 9, il dit ceci « Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous, auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. » Écoutez ça. Et ce zèle de votre part, maintenant ils ont montré un zèle, le zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Voyez ici, le zèle des uns stimule le zèle des autres. Voilà pourquoi il est important de ne pas se décourager, être dit, oh, bon, je vais pas montrer trop de zèle parce qu'après on va croire que... Non! Au contraire, Dieu veut que par notre zèle à le servir, nous soyons des moteurs pour les autres. Des entraîneurs pour les autres. Et que nous les motivions par notre propre zèle. Donc le zèle a une influence bénéfique sur les autres, sur l'Église, sur le monde. Et puis troisièmement, le zèle est indispensable aussi à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Il nous semble peut-être que pour accomplir l'œuvre de Dieu, il faut de la puissance, n'est-ce pas? Il faut des moyens suffisants, il faut des ressources matérielles. Mais en fait, pour accomplir l'œuvre de Dieu, il faut de la puissance. Vous savez, lorsque Dieu lui-même parle du Messie qu'il va envoyer et qu'il donne le gage de l'accomplissement de ce qu'il a dit, il dit pas « je vais le faire parce que je suis puissant ». Il dit pas « la puissance de Dieu accomplira ces choses ». Vous savez ce qu'il dit? Regardez Ésaïe chapitre 9. On connaît bien ce passage, qu'on le récite souvent à Noël. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Donc Ésaïe chapitre 9 et au verset 5. Il dit, car un enfant nous est né. Vous connaissez bien cela, n'est-ce pas? Un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Verset 6, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il est question du Messie ici. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce qu'il faut faire. Mais comment il va le faire? Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Le zèle de l'Éternel. Pas la puissance de l'Éternel. Bien sûr, il le fait par sa puissance. Mais il dit par le zèle. Et vous savez, le mot qui est traduit par zèle ici, c'est le mot jalousie. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et souvent, il ajoute, il est un feu dévorant. La jalousie est associée au feu. Le feu est associé au zèle. Et quand il dit ici que Dieu accomplira les choses par son zèle, c'est par l'ardeur de sa jalousie, le fait qu'il travaille pour sa propre gloire. Et ce qui donne de l'assurance ici, c'est pas simplement qu'il a la puissance de le faire, c'est qu'il emploiera son zèle à le faire. On peut avoir de la puissance et ne pas avoir du zèle dans quelque chose. On peut avoir les moyens de faire quelque chose, n'est-ce pas, et ne pas avoir le zèle pour le faire. Je prends un exemple pour nous. Dieu peut nous donner des moyens matériels. Allez, voilà, vous êtes riche. Vous pouvez donner beaucoup à l'église, beaucoup dans la mission. Mais avec ce pouvoir que vous avez de faire, si vous n'avez pas de zèle, n'allez pas le faire. Si vous n'avez pas cette ardeur, cet empressement, cette promptitude à le faire, cette ferveur pour le faire, vous n'allez pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont les moyens, qui ne font pas. Et Dieu lui-même, avec toute sa puissance, il dit, je vais envoyer le Messie et j'accomplirai cela par mon zèle. Qu'est-ce qui le fera? C'est le zèle de l'Éternel qui fera cela. La jalousie avec laquelle il a souci de son nom, il a souci de sa gloire. C'est par cette énergie-là, si j'ose dire, qu'il le fera. Et c'est écrit à plusieurs autres endroits dans la parole de Dieu. Le prophète ne dit pas, c'est ce que fera la puissance de Dieu, mais c'est ce que fera le zèle de l'Éternel. Une chose est de savoir que Dieu est puissant, chers frères et sœurs, pour accomplir une œuvre. Mais une autre chose est de savoir qu'il met du zèle à accomplir, qu'il va poursuivre jusqu'à ce que la chose se fasse. Il va le faire au temps, en heure qu'il a prévu, parce qu'il est zélé et jaloux pour son dessein et pour sa volonté. Lorsque les disciples voit Jésus qui rentre dans le temple. Vous vous rappelez qu'il prend son fouet et qu'il chasse les vendeurs du temple. Quel est le verset qui vient à leur esprit? Vous vous rappelez? Ils voient Jésus qui renverse les choses dans le temple et ils disent pas, oh, comme il est fort! Comme il est puissant! Comme il a peur de rien! Vous savez ce qu'ils disent? Ils se rappellent de ce que David a dit dans le psaume 69, verset 9. Il dit, les disciples se rappelèrent qu'il est écrit, quoi? Le zèle de ta maison me dévore. Quand il voit Jésus avec cette sainte colère chasser et faire le ménage dans la maison de Dieu, ils disent qu'il est animé par le zèle de la maison de Dieu, le souci. Il est jaloux pour la maison de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui revient à leur esprit. Et il en est ainsi aussi, chers frères et sœurs, pour nous. Le zèle accomplit plus que la puissance. Alors ne cherchez pas à avoir plus de moyens, cherchez à être plus zélé. On peut disposer de moyens et ne pas pouvoir déployer les moyens ici. Mais le zèle trouvera toujours une solution, toujours. Le zèle ne se laisse pas décourager. Quelqu'un écrit, le zèle a des yeux pour voir, il a un cœur pour sentir. Il a une tête pour concevoir, il a une langue pour plaider, il a des mains pour travailler, il a des pieds pour voyager, afin de sauver les pauvres âmes et de les élever de leurs conditions inférieures, de les ôter de leurs conditions inférieures. Le zèle trouve l'énergie où il faut. Là où la puissance ne passe pas forcément, le zèle trouve. Les circonstances peuvent s'opposer au déploiement de la puissance, mais le zèle véritable, il sait contourner la difficulté. Même plus, il utilise la difficulté comme un tremplin. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, rappelez-vous, quand il dit, il écrit aux Corinthiens, il dit, « Je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande ouverte et d'un accès efficace m'est ouverte. » Et il ajoute, « Et les adversaires sont nombreux. » Il dit, « Oui, il y a des adversaires, il y a beaucoup de difficultés. Mais je reste quand même, parce qu'il y a, il voit une fenêtre d'opportunité ici. » Et vous savez, son zèle entrevoit la porte et l'accès efficace, là où la paresse se laisserait décourager par les obstacles et les difficultés. Parfois, nous voyons les obstacles. Oh, il y a de l'embouteillage. Oh, il y a ceci. Oh, c'est samedi, il faut que je me repose. Oh, j'ai une semaine chargée, etc. Nous voyons beaucoup d'obstacles à pouvoir manifester notre zèle. Nous voyons très peu que Dieu nous donne de petites fenêtres d'opportunité dans laquelle nous devons montrer notre zèle pour le servir. pour être quelque part où sa parole sera prêchée. Et on pourrait prendre plein d'exemples dans l'Écriture. On ne va pas le faire, on n'a pas le temps. On voit les disciples, les apôtres, travaillant avec zèle ici. Même Apollos, souvenez-vous, lorsqu'il a prêché la parole de Dieu dans Actes chapitre 18, la Bible dit qu'il exposait exactement les Écritures. Mais regardez comment il le faisait. Il était instruit, dit-il, Actes 18, 25, dans la voie du Seigneur et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. J'ai sauté une partie exprès dans le verset. Hein. Là, il dit, il était instruit dans la voie du Seigneur, ce qu'il faisait, c'est qu'il annonçait avec exactitude, mais avant, le verset dit, il était fervent d'esprit, chaud, bouillant. C'est ce que ça veut dire. Plein de zèle. Et c'est ce zèle qu'il avait pour Christ qui faisait qu'il annonçait avec exactitude la parole de Dieu, même s'il n'avait pas tous les éléments en main. Je termine par quelques points d'application. Mon application, c'est une question, chers frères et sœurs. Êtes-vous zélé pour Dieu? Et je la pose à moi aussi. Mais pour qu'elle soit plus percutante, je laisse avec le « vous ». Sommes-nous zélés? Êtes-vous zélé pour Dieu? Dieu ne demande pas moins que le zèle pour lui. La tiédeur lui donne, on l'a dit tout à l'heure déjà, la nausée. Il veut que ses enfants soient zélés. C'est pour cela qu'il dit à l'église de la Odyssée dont nous avons lu la tiédeur ici, il dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». Il dit ceci « Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime ». Au verset 19 de chapitre 3. « Aie donc du zèle et repens-toi ». Le Seigneur veut que nous considérions nos vies, que nous prenions notre température spirituelle, que nous la mesurions avec l'ardeur du zèle que nous avons pour lui. Êtes-vous zélé pour vous repentir? Peut-être vous dites, oui, je voudrais bien tourner vers le Seigneur, si je ne suis pas encore au Seigneur, mais avec quelle ardeur le cherchez-vous? Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Si vous me cherchez de tout votre cœur, mais il faut le chercher, non pas de manière légère, mais de tout votre cœur. Êtes-vous zélé pour vous tourner vers Dieu, aujourd'hui, dans la repentance et dans la foi? Ou remettez-vous toujours à plus tard et encore à plus tard? Êtes-vous zélé pour la lecture de la parole de Dieu? Avez-vous faim et soif de la parole? La lisez-vous continuellement, journellement? La méditez-vous? La mémorisez-vous? Est-ce que vous vous exposez chaque fois que vous pouvez, chaque fois que vous devez, à l'enseignement de la parole de Dieu? Montrez-vous votre zèle là-dedans. Pouvez-vous dire comme le psalmiste, psaume 119, verset 139, « Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. » Autrement dit, lui, il les oublie pas. D'accord? Il a un zèle pour la parole de Dieu. Un tel zèle qu'il est gêné de voir que les autres autour ne se tournent pas vers cette parole. Êtes-vous zélé pour la parole de Dieu? Le Seigneur nous dit, il vous dit, aie donc du zèle et repens-toi, si tel n'est pas le cas. Êtes-vous zélé pour la prière? La prière en privé. C'est quelque chose qui est difficile, je reconnais, quand je regarde dans ma propre vie. La prière en privé et la prière aussi en communauté. Jetons-nous quelques paroles froides au Seigneur ou aimons-nous vraiment le prier? Est-ce que la prière est une heure bénie, comme nous le chantons, peut-être? Quelle est la dernière fois où vous vous êtes rendu à la réunion de prière de votre église? Vous dites, Seigneur, je suis zélé. Je veux te suivre. Mais combien de fois êtes-vous resté dans votre canapé alors que l'église de Dieu était en prière?
Dieu dit, si c'est le cas, aie donc du zèle et repens-toi. Dans son amour, c'est ce qu'il nous dit. Il ne nous blâme pas pour nous blâmer, mais il veut que nous soyons mis en face de notre vie et que nous nous repentions et que nous montrions au monde que nous avons du zèle pour lui, qu'une réunion de prière, ça compte pour nous et qu'on est capable d'annuler plein d'autres choses parce que le peuple de Dieu se réunit ce soir pour prier. Et parce que j'aime mon Dieu et que j'ai du zèle pour lui, je m'associe avec son peuple. Avez-vous du zèle pour la prière? Quel obstacle a vite fait d'avoir raison sur votre zèle? Avez-vous du zèle pour l'église locale? Quel y est votre engagement, chers frères et sœurs? Quelle part prenez-vous à son développement? Avec quelle ardeur la défendez-vous? Mettez-vous du zèle à la critiquer? Ou êtes-vous passionné par sa croissance? Si tel n'est pas le cas, Dieu dit, aie donc du zèle et repens-toi. Êtes-vous zélé pour obéir? Savez que vous devez, en tant qu'enfant de Dieu, marcher d'obéissance en obéissance. Un premier pas d'obéissance, c'est le baptême quand on est un enfant de Dieu. Le faites-vous? Êtes-vous zélé pour le faire? Si tel n'est pas le cas, la parole de Dieu nous dit, aie donc du zèle, obéis et repens-toi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a rachetés pour se faire un peuple. Jésus-Christ s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple purifié par lui. Et n'oublions pas, zélé pour de bonnes œuvres. Donc, quand le monde regarde le peuple de Dieu, il doit voir les caractéristiques de ce peuple. Et les caractéristiques de ce peuple nous sont données dans ce verset. Il est purifié, il se détourne du mal avec zèle et il sert Dieu avec zèle. Dans tous les domaines, il obéit avec zèle. Il aime le peuple de Dieu avec zèle. Il prie avec zèle. Tout ce qu'il fait est marqué par cette ardeur fervente et brûlante. Si nous ne faisons pas ces choses, c'est parce qu'à l'intérieur, le feu ne brûle pas. Parce que quand le feu brûle à l'intérieur, Dieu dit que la lumière se voit. Jean était une lampe qui brûle, c'est tout? Non, qui brûle et qui? Lui. Et vous avez voulu vous réchauffer une heure à sa lumière. Si nous sommes ainsi, les gens voudront se réchauffer à la lumière. L'apôtre Pierre disait, qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? En général, on ne maltraite pas. Bien sûr, le monde ne va pas aimer, mais on ne maltraite pas ceux qui sont, de manière générale, zélés pour le bien. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nous interpelle, et moi le premier. Et nous reconnaissons que dans le monde que nous vivons, nous avons tant de sollicitations, tant de moyens de substitution que nous oublions les moyens que tu nous donnes, les moyens de grâce que tu nous donnes pour grandir, Seigneur. Nous oublions l'Église, nous oublions la parole, nous oublions la prière, nous oublions la communion des frères, nous oublions la Sainte Cène. Ces choses que tu nous donnes afin que nous puissions grandir dans ta connaissance et dans ta grâce. Ou peut-être ne les oublions-nous pas, mais nous montrons de la tiédeur, un refroidissement. Oh, dans ta grâce, Seigneur, veuille réveiller notre esprit. Veuille réveiller notre zèle. Donne-nous des cœurs repentants. Oui, que nous ayons du zèle ce matin et que nous nous repentions. Que nous considérions chacun notre propre vie. Et donne-nous, dès aujourd'hui même, de corriger avec la force que ton esprit nous donne tout ce qui ne te plaît pas dans notre vie. Oh Seigneur, garde-nous de remettre à demain encore et d'oublier ce que nous avons considéré ce matin. Que nous puissions nous rappeler à quel point tu loues ce qui manifeste un véritable zèle pour toi. Oh, merci de nous avoir sauvés, de nous avoir donné de ton esprit et de nous donner la capacité d'être zélés pour toi, de brûler pour toi. Ravive notre flamme, nous te prions. En ton nom et pour ta seule gloire. Amen.